Sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Robert Rivard.
Bonjour.
De Michel Charon.
Bonjour.
Et de Linda René.
Bonjour.
Nous sommes à Montréal, dans les studios de Radio Centre-Ville. Et notre thème aujourd'hui sera « Le bonheur est dans les petites choses ». Les gens aujourd'hui, je trouve, ils cherchent beaucoup le bonheur dans des grandes choses, une grosse maison, beaucoup d'argent, la célébrité, etc. Mais on dirait qu'ils oublient souvent que le bonheur est dans les petits détails, les petites choses qu'on remarque, etc. Et ce sera le thème de notre émission aujourd'hui. Mes amis, avez-vous réfléchi à ce sujet cette semaine?
Oh, pendant des heures et des heures et des heures.
Et quelle est ta conclusion sur...
Ma conclusion, c'est que...
Ou ta prémisse, là, parce qu'on est au début de l'émission.
Bien, que toutes ces choses-là, ces recherches-là sont, bien sûr, des choses qu'on poursuit à l'extérieur de soi-même. Et la culture est là, les médias sont là, les générations d'avant le faisaient avant. Donc, c'est difficile de sortir de cette poursuite... de trophées, de cheminement et tout ça. Moi-même, j'ai véhiculé ça et continue encore dans une certaine mesure de le faire. Mais avec détachement maintenant et avec je réduis l'importance de ces choses-là parce qu'en réalité, c'est un voyage pour moi. Je véhicule à travers une réalité. Et puis l'idée, c'est plutôt d'expérimenter cette réalité-là, mais elle n'est pas nécessairement associée avec des choses physiques. Bien sûr, on a besoin de minimum, et puis c'est bon d'avoir ce qu'on a besoin pour fonctionner, mais quand on le regarde vraiment de proche, c'est vraiment seulement des petites choses qu'on a vraiment besoin pour être heureux.
Oui. Moi, par exemple, les moments où j'étais le plus heureuse, ben, c'est quand j'ai mis mes enfants au monde. Et puis quand j'en ai pris soin, petit, juste des choses comme donner le sein, les laver, les mettre en pyjama, leur donner à manger, les regarder, des petites choses comme ça, pour moi, ça a été des moments merveilleux, des moments de grand bonheur. Il y en a plein d'autres, là. Mais quand on parle dans les petites choses, pour moi, c'est des grandes choses, ça devient des grandes choses. Mais... à l'extérieur, on sent que c'est pas d'être nécessairement riche pour avoir deux autos dans la voiture, dans la cour et puis faire des voyages 4-5 fois par année. Oui, ça peut être agréable, mais c'est pas nécessaire pour avoir du bonheur.
Ça, c'est que c'est agréable si tu l'as, mais si on te l'enlève, est-ce que tu arrives à être heureux? C'est ça la question. Hein? Beaucoup de gens seront pas capables d'être heureux sans leurs deux autos,
ben,
leur maison.
C'est drôle ce que tu dis, Nicolas, parce que je suis en train de le vivre, ça. Moi, j'ai possédé, j'ai eu beaucoup, beaucoup de matériel pendant longtemps. Et là, je suis à me défaire de beaucoup, beaucoup de matériel. Et c'est effectivement très difficile. Mais j'apprends autre chose. C'est sûr que là, j'ai pas le choix de regarder les petites choses parce que c'est ça que je vis là, dans les petites choses. Mais c'est effectivement très difficile quand tu as possédé des biens, quand tu en as eu, quand tu as pu... ton bonheur dépendait de ça, tu pensais que c'était ça, en tout cas moi je pensais que c'était ça le bonheur, là. Les voyages, la grosse voiture, la grosse maison, puis là bien non, t'as plus ça, j'expérimente ce que c'est présentement, puis je trouve ça extrêmement difficile. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire que quand j'étais avec toutes ces choses-là, que j'étais plus heureuse nécessairement.
Et toi, qu'est-ce que ça t'évoque? Parce que je trouve que elle me raconte son histoire, ça me fait penser un peu à la tienne.
C'est drôle ce que je vais dire, c'est pas tout à fait dans la même lignée, mais aujourd'hui j'avais un souvenir d'un film où, je sais pas si c'était le titre, c'était Baby Steps, mais beaucoup de choses actuellement je suis en train de réaliser autant dans mon écriture, dans mes consultations, dans ce qui se matérialise dans ma vie, des choses que je désirais ardemment et qui sont en train de se concrétiser, et que l'effort demandé est beaucoup moins grand que ce que j'imaginais. Et ça, pour moi, ça me donne beaucoup d'audace et de courage. Je me rends compte que j'avais tendance à être très exigeante envers moi-même, très perfectionniste. Et puis, des fois, je ne me mettais pas à la tâche. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé qu'un paquet de choses, vraiment, parfois, là, j'ai l'impression d'être une genre gentille sorcière ou une magicienne, ou je ne sais pas. Il y a des choses que je fais, puis je m'aperçois après aussi bien avoir décoré, redécoré. Donc, je rentre chez nous, puis je dis, non, là, je veux tout redécorer ça, puis m'apercevoir que j'ai trouvé dans des petites brocantes des choses incroyablement jolies, pas chères. Puis là, tout d'un coup, je fais, ah, mon Dieu, regarde, c'est beau, tu l'as fait. Ou, je sais pas, même dans ma publicité, dans toutes sortes de choses. Donc, et puis des transformations intérieures. Donc, moi, je parle du petit effort. Parce que ça, ton inconscient, il va pas t'auto-saboter quand tu dis un petit effort. Et je trouve que ça me permet d'échapper justement à une anxiété qui me paralysait. Je me disais, oh mon Dieu, c'est dur, ça va être dur, ça va être dur. Alors là, je me fais comme... Je me fais moins de scénarios, j'embarque dans l'action, et puis je me suis aperçue que ça m'allège beaucoup au niveau mental. On dirait que ça me repose intérieurement.
Je pense qu'il faut apprendre à jouir de ces petites choses-là.
J'aimerais ajouter une chose. Tantôt, Michel parlait de un peu, elle disait dans un sens, j'avais avant et là, je n'ai plus, et naviguer à travers ces émotions-là. Il y a quelque chose à dire d'avoir, tu sais, de conduire une BMW ou de se faire conduire en BMW, d'aller dans un restaurant 5 étoiles, de voir les Caraïbes une fois dans sa vie. C'est pas un trophée là, élevé, ben les gens vont là, tout ça. Mais il y a des choses à voir et des choses qu'on peut pas vraiment remplacer qui sont uniques. Et je le souhaite à tout le monde qui peuvent se permettre de le faire. Mais c'est pas non plus... Autant que c'est unique, ces choses-là sont uniques, autant que c'est pas non plus un absolu et un essentiel pour arriver au bonheur. Donc, je le souhaite aux gens, moi, de pouvoir échantillonner des belles choses de la vie, parce que c'est plaisant. C'est plaisant de faire des choses inhabituelles ou luxuriantes, des choses bien. Mais c'est pas non plus une nécessité ou une absolue ou une condition pour arriver à ce bonheur-là.
Mais peut-être qu'il faut savoir les apprécier tout simplement. Oui. Est-ce que la personne qui a sa BM, à un certain point, elle se rend même plus compte de cette chance qu'elle a? Mm-hmm. Ou au contraire, elle est à chaque instant? Je pense que ça dépend juste de l'attitude de la personne. Une personne peut être très, très riche, mais quand même être dans les petits détails, oui. Apprécier la finesse des choses qu'il va avoir. Et encore là, pour moi, ça dépend pas nécessairement d'avoir ou de ne pas avoir, mais je crois qu'en général, on remarque que ceux qui ont beaucoup sont moins attentifs à ces petites choses qui sont pas matérielles, qui sont...
Bien, les possessions aussi viennent qu'à te posséder éventuellement. Donc, c'est ça qu'il faut que tu fasses attention. T'en as trop, t'en as tellement que tu deviens un gérant de possession et puis ton temps puis ton attention est là-dessus tout le temps. Donc, il y a une balance à aller chercher, peut-être un genre de système de priorité à faire là, pour dénigrer puis de se débarrasser de ce qui est surplus.
Tu as dit le mot-clé, je trouve, c'est le temps. Mm-hmm. Quand on ralentit, mm-hmm. quand on prend le temps, si t'es sur la 20... Ça va vite, tu vois rien aller, tu vas de A à B, mais si tu fais une panne en plein milieu, là, tu vas regarder la nature, tu vas regarder les insectes, tu vas regarder les petits détails. Et ça m'est déjà arrivé, moi, j'ai déjà fait du pouce pour aller à Québec quand je suis arrivé à Montréal, quand j'étais plus jeune, puis des fois, je me faisais laisser en plein milieu du chemin, puis je restais là des fois une heure avant de pogner une route, et je voyais un lever de soleil devant Sherbrooke, où c'était vraiment merveilleux, mais j'avais jamais vu ça. Parce que en général, on va vite.
Ouais.
C'est le problème aujourd'hui, je trouve, cette vitesse.
La nature est une belle ressource d'abondance. Parce que tu parles de ça, c'est une très belle ressource à considérer.
Oui, puis moi, j'ai dans un autre ordre d'idée, j'ai le père de mes enfants qui a fait un AVC il y a un mois. Et ça l'a changé complètement sa vie. Donc, ça change évidemment la vie des enfants, des jeunes adultes qu'on a ensemble. Et moi aussi, ça a changé beaucoup. Et il doit recommencer à parler. Il doit recommencer, à, par exemple, il y a un bras qui est paralysé. Alors, à tous les jours, les enfants vont le voir. Et moi, je vais le voir assez régulièrement, même si on n'est plus ensemble. C'est quand même le père de mes enfants. Et les petites choses qu'il fait, qui améliorent, comme par exemple, la semaine passée, je l'ai fait danser. Mais il y avait encore le rythme. Alors, ça, c'est pour moi, c'est extraordinaire. C'est des petites joies. Pour d'autres qui peut sembler ben, il n'y a rien là, là. Mais pour moi, ça a été extraordinaire de voir qu'après son AVC, il puisse encore avoir le rythme dans son corps puis apprécier danser avec moi. Ça, c'était un grand bonheur pour moi, oui. C'est dans les petites choses.
On va faire une pause avec la nouvelle chronique là, qui s'appelle « Le gai savoir » de Jacques Couture. Puis on va revenir après avec ce thème « Le bonheur est dans les petites choses ».
Bonjour à vous, soyez les bienvenus à cette nouvelle chronique. Ici Jacques Couture pour Le Gai Savoir, celui qui va dynamiser votre bonheur dans les rencontres, que vous soyez gay, bisexuel ou d'un autre genre de terrien. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Une fois par mois, je vais m'entretenir avec vous d'homosexualité, de bonheur de côtoyer et de jouir en compagnie d'amoureux du même sexe ou selon vos désirs de rencontre, car c'est le bonheur qui doit être au centre de vos vies. D'abord, pourquoi ce titre de chronique? C'est mon ami, animateur de l'émission que vous écoutez actuellement, Propos sur le bonheur, animé par Nicolas Lehoux, qui m'a lancé l'idée d'une chronique intitulée « Sur une thématique gay », visant la joie et le plaisir, ayant comme titre « Le gay savoir ». Il va de soi que cette chronique s'adresse à tous et peu importe son orientation sexuelle. Le titre de la chronique fait référence à deux livres, celui d'abord du philosophe allemand Nietzsche, par son livre « Le gai savoir ». Ce livre est décrit sur l'encyclopédie, sur différentes encyclopédies, entre autres sur Internet. Là. Un livre qui parle d'un rire libérateur, un culte de Dionysos, un dieu de la mythologie grecque qui aime la fête et le savoir. Cela me rejoint particulièrement et je souhaite que ça va en être le cas pour vous. Aussi, l'œuvre d'un écrivain français Rabelais à la fin du 15e siècle fait référence à un gai savoir. Même si les livres de ces époques ne parlent pas d'homosexualité à proprement dit, nous pouvons en retenir un point de vue œcuménique, un caractère universel. De même, je pense au film Théorème du réalisateur italien Pier Paolo Pasolini. Ce film fit scandale à sa sortie en 1968. Dont le synopsis est celui-ci. Annoncé par un télégramme, un personnage mystérieux d'une étrange beauté séjourne dans une riche famille milanaise et entretient des rapports sexuels avec chaque membre de la famille, changeant radicalement la vie de chacun. Donc, je vous invite à regarder le film, à séduire les gens autour de vous et à vous laisser séduire. Le gai savoir consiste d'abord au fait de s'aimer soi-même et de tout se permettre avec conscience. Vous êtes digne du meilleur. Il importe aussi de communiquer ses désirs. Un voisin vous fait de l'effet? Invitez-le. Faites-vous complimenter par lui? Complimentez-le à votre tour. Demandez-lui de se tenir en petite tenue dans les corridors. Cela va vous faire plaisir. Et j'imagine lui aussi va aimer participer à ce jeu. Ainsi, tout est possible lorsque l'on veut et votre imagination guidera votre fougue. Oui, le temps passe si vite, c'est pourquoi vous devez vous consacrer à ce qui vous stimule le plus et à vous dire oui, car dans la vie, mieux vaut vivre des remords que des regrets. Ainsi, sur ces quelques pensées, je vous dis à la prochaine.
Propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Le bonheur est dans les petites choses ». La valeur dominante aujourd'hui est le travail ardu. Hein? Quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est une valeur pour la société, mes amis, c'est un dieu. Et pourtant, à mon avis, c'est celui qui a le moins de sagesse. Je pense que la personne, le sage, est capable d'arrêter le plus de choses possibles pour avoir du temps pour réfléchir, se consacrer à lui-même. Donc, la sagesse, pour la majorité des gens, est diamétralement opposée à ma vision de la sagesse. Parce que, par exemple, moi, je n'ai pas travaillé pendant longtemps. Pendant 10 ans, j'étais sur l'aide sociale et j'avais 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et j'avais du temps pour réfléchir et j'avais du temps pour les petits détails. Maintenant, je travaille. J'ai pas eu le choix de commencer à travailler pour payer mon loyer, etc. Et je vois que c'est très difficile maintenant d'apprécier les petits détails. Ça va tellement vite. La semaine commence, pouf, je reçois des demandes, je reçois plein d'appels. Le soir, je veux travailler sur mes propres projets. J'arrive la fin de semaine, je me repose, je veux travailler sur mes projets. Et ça recommence. C'est comme un cercle sans fin. Et je suis un peu nostalgique de cette époque où je pouvais ne pas travailler. Donc, pour moi, c'est un idéal. Idéalement, on devrait ne pas beaucoup travailler. On devrait pouvoir travailler seulement 2 heures par jour. Et puis le reste du temps, faire l'amour, à être avec des amis, avoir du plaisir, partager nos rêves, etc.
Ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal ou un idéal possible. Mais c'est ça, ces valeurs-là de travail acharné ont à l'origine surtout des préceptes religieux, comme celui qui dit que l'homme pourra se...
Gagne,
se purifier
à la sueur de son front,
exactement. Puis qu'est-ce que ça garantit, travailler fort, fort, fort? Habituellement, ça garantit que tu vas travailler fort, fort, fort. C'est ça que ça va garantir.
Comme un mulet.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est très valorisé par la société quand on travaille. D'ailleurs, on se fait souvent dire « Oh, je travaille tellement de ce temps-là. » Puis c'est comme si faudrait complimenter les gens qui travaillent beaucoup. C'est une belle qualité, bien travailler, tout ça. C'est très valorisé. Mais... quand on est sur le bien-être social, c'est moins valorisé. Ou si on décide de prendre une année sabbatique, ou c'est moins valorisé ces choses-là. On valorise beaucoup, beaucoup Donc, que veux-tu qu'on fasse quand on est dans une société où on veut nous aussi se faire valoriser, fait qu'on s'en va vers ça. On veut... Donc, si on est des moutons, on suit ça. Hein?
Mais t'as raison, hein, parce que moi, j'ai des gens qui venaient et me disaient qu'ils se vantaient, qu'ils faisaient du 80 heures semaine. Mm-hmm. J'avais juste leur goût de leur dire, tu sais, pour moi, plus tu travailles, moins t'es intelligent. Donc, viens pas te vanter de tout ça à moi, parce que t'es pas devant la bonne personne.
Puis c'est une marque de déséquilibre aussi quand on travaille 80 heures par semaine, par exemple.
Et plus, des fois, oui. Je pense qu'on remplit un vide dans ce temps-là. Ouais. Moi, j'ai un plein que j'aimerais pouvoir exprimer, mais je suis obligé présentement de gagner ma vie. Le système est fait en sorte qu'on n'a pas le choix de travailler pour... Le coût minimum pour vivre est tellement élevé, un loyer, nourriture, électricité, qu'on n'a comme pas le choix de travailler... Ou sinon, tu vis sous le seuil de la pauvreté. Je l'ai déjà fait, mais ça devenait... je pense que c'est bien quand tu es jeune, tu sais, mais à un certain âge, il faut aussi faire partie de la société et puis l'expérimenter. Donc, c'est un peu pour ça. Mais un peu comme toi, Michel, tu es rendu à un point où là, tu veux te consacrer plus à toi. Parce que...
Oui, moi, c'est plutôt le contraire. Je m'en vais vers le moins faire ou le faire ce que j'ai le goût de faire. Alors moi, je suis une comédienne dans l'âme. Je n'ai jamais pu gagner ma vie comme comédienne, mais j'ai l'intention pour les prochaines années de faire ce que j'aime, que ce soit de la figuration, même si c'est juste des rôles muets, mais de faire ce que j'aime ou suivre mes ateliers de théâtre et puis me consacrer à ce que j'aime. Je m'en vais vers... En tout cas, j'ai 57 ans. Donc, je trouve ça important là, de vraiment faire ce que j'aime. Mais c'est sûr que là, il faut vivre avec ce qu'on a aussi. Alors, c'est pas évident. Moins on travaille, moins on a d'argent. Et c'est un choix qu'on a à faire. Ouais. Mais la vie, ça charge toujours de nous apporter ce qu'on a besoin. Quand on sent qu'on est sur la bonne voie, la vie se charge toujours. Il se passe de quoi? Je sais pas, moi... Tu gagnes à la loto. Non, c'est pas vrai. non, mais t'as un ami qui te donne un petit contrat. Tu peux faire des choses que dans ton domaine à toi, que tu aimes. Il y a moyen de survivre à ne rien faire, mais on fait quand même des petites choses qu'on aime, dans le fond, tu sais.
Toi, Linda, ça t'évoque quelque chose?
C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à peut-être vendre mes services, c'est drôle, ça va un petit peu à contre-courant, là, mais avoir un meilleur salaire pour mes services, ce qui fait que je suis obligée de mettre moins d'heures pour arriver à gagner ma vie décemment. Et en fait, ce qui est en train de changer, c'est plus la notion d'effort, plus que la notion de nombre d'heures. Donc, je peux mettre, mettons, un certain nombre d'heures, mais je ne le fais pas avec en me forçant. Tu vois, je me suis aperçue aussi que des fois, des états qu'on pense que c'est de la fatigue, c'est de la peur. Tu sais, on a peur de plonger vraiment. Et dernièrement, j'ai rêvé d'ailleurs que je sautais en parachute, puis je trouvais ça très intéressant comme rêve, parce qu'on a peur, tu sais, l'imagination de sauter en parachute, sauter dans le vide. Puis là, je me suis aperçue à chaque fois, à chaque jour, moi, j'ai un leitmotiv, c'est de faire quelque chose qui me fait peur ou que je serais tendance à remettre puis à me dire « Oh non, je suis pas capable, moi, je suis pas capable. » Fait que là, je le fais. Puis je suis toujours surprise. C'était « Ah, c'était rien que ça. Oh mon Dieu, c'était rien que ça. » Alors, ça va un petit peu dans le sens de dire les petites choses, tu sais, c'est comme... Tu sais, des fois, je me dis « Hey, imagine-toi, là, tu sais, tu regardes, là, si tu continues à découvrir des choses, là, dans 5 ans, tu vas être rendu, tu vas t'apercevoir, c'était pas plus dur que ça. » Tu sais? Fait que moi, ça me motive beaucoup, ça me nourrit, comment je dirais, ça m'émerveille un peu comme un enfant. Tu sais, c'est comme si je vais à la découverte. Tu sais, quand on est un enfant, on croit beaucoup plus qu'on va réussir que l'inverse. On n'est pas habité par l'idée de l'échec. Fait que là, je deviens plus habité par l'idée de « ça va marcher »,« ah, ça va être le fun »,« ah, tiens, tu sais ». Au lieu de « ah, ça va être dur, mon Dieu, je pourrais être... » Non, je veux plus, je refuse. Puis des fois, je m'aperçois que la souffrance, c'est appris. On a appris.
Alors, c'est, oui, c'est sûr. Ça fait plus de 2500 ans que les religions nous enseignent qu'il faut souffrir pour aller au paradis, il faut mériter le paradis, que je veux dire, les gouvernements nous emmènent aussi dans cette idée qu'il faut mériter, tu peux pas avoir juste de l'argent comme ça qui tombe du ciel, mais pourquoi pas? Hein? Il y a des tribus qui vivent dans la jungle, ils font juste brasser un arbre, les fruits tombent, et, je veux dire... Il y a des tribus comme ça qui vivent nues. Ils ne travaillent pas plus que 2 heures par jour. Ces 2 heures-là, c'est aller ramasser de la nourriture. Le reste du temps, ils font l'amour, ils racontent des rêves, ils jouent. Et ces gens sont beaucoup plus heureux que nous. Travailler comme des fous, tel qu'on le fait dans la société occidentale, ça nous rend malades. Et encore là, ça en revient au gouvernement. Il faut suivre la trace de l'argent. T'sais, quand on est malade, c'est très payant pour le système de... Je dirais pas le système de santé, je dirais le système maladie, hein, parce que c'est comme ça. Il faut être malade aujourd'hui, c'est très payant pour le système. Donc, tout ce qui est, toute cette vitesse qu'on nous donne, qui est aussi... qui est un miroir avec les communications, les gadgets, l'Internet, tout ça nous amène à aller super vite. Mais est-ce que la majorité des gens seraient capables de dire non, merci?
D'ailleurs, le burn-out, c'est assez quelque chose de récent, le burn-out. Hein? Je veux dire, puis c'est professionnellement, c'est pour les gens qui ont trop travaillé, justement, ils font des burn-out. On en a plein de monde qui font des burn-out.
C'est la mode, oui.
C'est comme la mode, c'est sûr, ça va avec. Hein? Tu travailles trop, à un moment donné, tu pètes, la machine à pète, hein? Qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Eh bien, mais on dirait qu'on n'apprend pas, les gens, on retourne, en tout cas, on. Je veux dire, la majorité des gens, parce que Nicolas n'aime pas le « on », la majorité des gens vont retourner quand même à leur pattern de « il faut produire, il faut travailler ».
Et puis, il y en a qui apprennent pas, hein. Ils vont faire une crise cardiaque, puis ils vont se relever, puis ils vont continuer. Mm-hmm. Il y en a qui vont comprendre, mais il est peut-être trop tard. Je pense que quand tu arrives à un point où tu t'en fais une crise cardiaque ou t'as une maladie, c'est que ça fait des années qu'ils t'ont... Ton subconscient t'avertit que tu as des rêves, probablement.
Que oui,
par contre, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai déjà vécu un burn-out et puis je trouve qu'on peut s'assagir. Je ne sais pas, je repense à Guy Corneau qui a fait un cancer, qui était rendu en phase 4. Puis ça lui a fait un wake-up. À un moment donné, tu peux faire « Hey, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? » là, t'sais? Puis on peut repenser sa vie. Aujourd'hui, effectivement, le rythme est beaucoup plus accéléré, fait qu'on fait plus de choses dans une semaine, dans un mois, dans une année. Moi, depuis que je suis revenue à Montréal, des fois, je suis étonnée dans une semaine, tout ce qui peut se passer dans ma vie, tu sais, de possibilités, et puis tout ça. Alors, ça nous appartient, je pense, de se donner des moyens. Moi, si je reçois des gens, il y a des gens qui vont venir me voir pour parler de, par exemple, augmenter la confiance en soi. Moi, je veux lui aider à se faciliter la vie, les étapes, pour se rendre là, que ce soit moins épeurant, moins compliqué, puis attirant et non épeurant.
Bien, on va faire une pause musicale avec Cinzia Milia, qui nous propose une chanson qui s'appelle « Prendre le temps ». Et on va revenir après la pause avec ce thème « Le bonheur est dans les petites choses ».
J'aimerais tellement pouvoir vous dire que rien ne va jamais finir, que l'horloge peut se retenir. J'aimerais tellement pouvoir écrire que rien n'arrêtera les rires, que notre vie est une source qui ne saurait se tarir. Mais rien ne sert de mentir, j'aimerais au moins vous prévenir que c'est en les vivant qu'on construit les souvenirs. Qu'à trop vouloir courir, c'est nos vies que l'on finit par fuir. Laissez-nous prendre le temps, laissez-vous prendre le temps, laissons-nous prendre le temps, juste quelques instants. Laissez-nous prendre le temps, laissez-vous prendre le temps, juste écoutez le vent. Sa vie à la gagner et voir défiler les années. Y sommes-nous vraiment condamnés? Il n'y a-t-il pas d'autre voie que nous pourrions paver? N'y a-t-il pas d'autre choix? Notre priorité, chercher le plus, pas le meilleur, ressemble-t-on à une erreur? Nous poursuivons à l'heure. Est-ce l'abondance de biens qui offre le bonheur? Laissez-nous prendre le temps, laissez-vous prendre le temps, laissons-nous prendre le temps, juste quelques instants. Laissez-nous prendre le temps, laissez-vous prendre le temps, juste écouter le vent. J'ai peur qu'à la ligne d'arrivée de cette course courue tête baissée, il n'y ait comme médaille que le goût des regrets. Je ne connais qu'une urgence, gagner la quête du sens. Il y a tant à vivre sans attendre demain, là, à portée de nos mains. Laissez-nous prendre le temps, laissez-vous prendre le temps, laissons-nous prendre le temps, juste quelques instants. Laissez-nous prendre le temps, laissez-vous prendre le temps, juste écoutez le vent, le vent.
Retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Le bonheur est dans les petites choses. Comment ralentir? » C'est extrêmement difficile. Hein? Moi, je me rappelle très bien quand j'ai terminé l'université, que je suis arrivé à Montréal, et puis j'avais vraiment le désir d'être un artiste. Et je voyais que personne ne me comprenait. Personne n'avait le goût de m'aider à devenir un artiste. Et j'ai dit « Là, vous allez tous me laisser tranquille et je ne vais pas travailler. J'ai pas le goût de travailler. J'ai le goût de m'acheter une guitare. » D'aller jouer dans un parc, puis croiser des femmes toute la journée, puis dessiner. Et je l'ai fait, mais j'ai eu toute la société contre moi, la famille éloignée, les cousins. J'étais une honte pour la famille, et le gouvernement qui ne voulait pas me donner mon aide sociale, tout obligé d'aller chercher un avocat. J'ai eu toutes les misères du monde de recevoir un misérable 600$ par mois qui m'appartient. De toute façon, on me vole depuis toujours quand je paye des taxes et maintenant des impôts. Donc, c'est pas facile de ralentir parce que si vous le faites, vous allez avoir tout le monde contre vous. Puis personne va. Vous allez être comme un loser parce que c'est pas ça le modèle aujourd'hui. Alors que, en vérité, vous êtes des sages. Si vous réussissez à ralentir, mes amis, je vous dis que vous êtes des sages.
Moi, je mets un petit bémol. Je propose de ralentir, de se donner des moments d'arrêt durant la journée. tout à ta vérité. On a chacun notre vérité, mais moi, quand je m'arrête, par exemple, ça peut être une méditation, ça peut être juste, je m'allume une chandelle, je prends 3 bonnes respirations, je regarde, je fais le silence à l'intérieur de moi. Ou même une petite sieste, tu sais. Tout d'un coup, waouh, là, j'ai mes réponses. Ou aller prendre une marche. J'ai un beau parc en face de chez moi, je vais prendre une marche. Je vais marcher 10-15 minutes. Et cette pause, tout d'un coup, me recharge, ça me ressource. On dirait que je sais ce que je dois faire, j'ai la réponse à mes questions. Je cesse de tourner en rond. Donc, pour moi, ce ralentissement-là se trouve à me permettre d'augmenter ma vitesse après. Tu sais, on dirait que j'étais un cheval, moi. J'ai un cheval, j'aime ça courir. J'aime ça galoper, en tout cas. Et puis, c'est ça, c'est une façon, c'est ça, petit trou pour aller au grand galop.
Moi, je suis plutôt dans une période où je ralentis et puis je pense que j'ai donné beaucoup. Moi, j'ai pas eu une grosse carrière. Ma carrière, ça a été mes 4 enfants. Alors, mais j'ai performé là-dedans aussi, tu sais, parce qu'on n'est pas dans une société où on valorise beaucoup là, de faire beaucoup d'enfants. 4 enfants, c'est quand même beaucoup. Et j'ai travaillé fort, tu sais. Même si j'ai une maman à la maison, j'ai travaillé très fort. Et plus ça va, plus je me rends compte que j'ai besoin de ralentir. Le système, le corps, même si je me sens bien jeune, puis souvent on me dit que je fais pas mon âge, puis tout ça, puis c'est vrai, je suis très dynamique, tout ça. Il y a en quelque part, il faut que ça ralentisse. Et c'est bien comme ça. J'aime ça. Parce que c'est ça qui me donne justement mes contacts intérieurs, tout ça. J'en ai beaucoup plus depuis que j'ai ralenti que si t'es dans le tourbillon puis l'énervement et les petits moments de...
Tu t'assagis.
De lucidité. Tu deviens sage. Oui, ben par la force des choses. Parce que de toute façon... On sent que le système, il veut plus si on veut être... Tu sais, je veux dire, tu parlais tantôt des crises de cœur ou des gens qui se rendent malades, ben je pense que le système te le dit, il y a des signes qui font que, oh, OK, ben là, je vais accepter que j'ai donné beaucoup puis que je peux peut-être ralentir un peu, là.
Tu sais, il y en a qui sont pas capables d'arrêter. Il y en a qui vont dire, ah, je vais à ma retraite, je vais arrêter, mais j'en connais qui sont rentrés à leur retraite. Il y a un petit 2-3 semaines où ils font rien, puis ouf, là, ça repart. Les activités nulles, tu sais, qui remplissent le vide béant qu'ils avaient créé depuis toujours.
Le vide, ça fait penser comme les gens qui ne peuvent pas être silencieux dans une conversation. Ils n'ont pas la tolérance d'un moment de silence. Il faut qu'ils meublent l'espace, meublent tous les moments, meublent leur vie. C'est des meubles, c'est vraiment des maisons surmeublées. Il y a trop de stock dans ces places-là. Ouais. Moi... T'sais, bien sûr, ça dépend de ton époque et ou ton âge aussi. Là, les jeunes sont plus préoccupés à poursuivre que ce qui semble être absent dans la société, qui est la béatitude, le bliss. Et puis, ils sont actifs là-dessus, puis ils cherchent ces choses-là. Moi, je cherche en ce moment vraiment de me retrouver dans qui je suis, puis c'est par une pratique de prendre toutes les opportunités possibles pour être dans le moment présent puis d'être dans le non-faire, dans le not doing, là, et d'être autant que possible d'ici maintenant. Puis aussi de cultiver son énergie personnelle. Moi, je prends une approche asiatique en ce moment là-dessus, basée sur des pratiques taoïstes que je trouve tellement incroyables que tu, une fois que tu saisis cette chose-là, tu vois que tu es une unité, une entité complètement autonome qui n'est pas dépendante de son environnement pour fonctionner. Tu aimes interagir avec l'environnement, tu ne veux pas être un antisocial, tu ne veux pas être un ermite sur dans le haut d'une montagne, dans une cave sombre, mais il y a tellement d'autres choses que ça prend très peu quand tu reviens à ta source pour vraiment être dans un état d'abondance, de bonheur. Donc, c'est bien personnel, mais je ne trouve pas cette chose-là dans toutes les choses qu'on me présente, là, tu sais, la vie sociale ou les choses, tu sais, la scène et puis tout ça. C'est pas là que je retrouve le bonheur, parce qu'il est en dedans. Donc, mais il n'y a rien de mal à cheminer le chemin qu'on veut prendre pour s'y retrouver. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit.
Moi, il y a une expression que j'avais beaucoup aimée quand je faisais mes recherches psychédéliques. C'est le titre de livre d'ailleurs de John Lilly qui s'appelait « The Center of the Cyclone », le centre du cyclone. Mm-hmm. Et moi, c'était ça mon défi. C'était, oui, je peux atteindre l'éveil en plein milieu de la ville complètement folle. Mm-hmm. Tous les gens qui tournent autour de moi, et je me rappelle, moi, j'avais tout mon temps à ce moment-là. Je pouvais faire des expériences mystiques. Je pouvais prendre le temps de les exprimer dans mes livres, écrire, et j'avais le temps de réfléchir. Et j'étais au centre du cyclone. Le centre, c'est l'endroit le plus calme. On s'imagine qu'un cyclone, c'est la fin, c'est vraiment destructeur. Mais si on est en plein centre, le centre est totalement pacifique. Donc, c'est un peu une image de l'être qui est au centre de la personne. Donc, si on arrive à... Tu parlais que tu aimes ça travailler. Puis je pense qu'il y a un plaisir aussi à travailler. Et puis, ça fait partie du monde aujourd'hui. Mais en même temps, être capable d'arrêter... Beaucoup de gens ne sont pas capables d'arrêter réellement. Ils vont arrêter, mais ils vont arrêter en regardant la télé, ils vont faire quelque chose d'autre, ils vont penser toujours...
Un jeu vidéo.
Ouais. Ils vont chatter. Ils n'auront pas de moment vraiment où ils vont se recentrer. Pour moi, puisque j'ai été tellement longtemps comme ça à ne rien faire, aujourd'hui, ça devient comme... Je deviens agressif si je n'ai pas un temps par jour. À chaque jour, ça me prend un moment où je vais m'occuper de mes propres affaires. Mm-hmm. Sinon, je ne me sens pas bien parce que je sais que c'est la sagesse d'avancer dans mes livres, par exemple. Mes sites web, créer ma communauté, travailler sur le projet de l'émission. Ce n'est pas des choses... Je ne reçois pas d'argent pour ça, pas directement. En tout cas, c'est vraiment le plaisir qui me guide et la détente, ça me détend.
Mais tu travailles... Tu travailles beaucoup.
Mais... C'est malheureux, oui. J'aimerais mieux ne pas travailler. Moi, ce n'est pas mon idéal.
Je peux dire, peut-être aussi parce que je côtoie des gens qui font ce qu'ils aiment. J'en reçois. Puis, en côtoyant aussi des gens dans le monde des médias, je vois des gens qui ont une passion. Et pour moi, la clé, peut-être, c'est d'avoir une passion. Ça peut être comme toi, tu voudrais retourner faire du théâtre. Peut-être avoir une passion, quelque chose qui peut te nourrir intérieurement. Et ça, à ce moment-là, ben ça te remplit. Fait que tu vas arrêter. Tu vas pas avoir peur d'arrêter parce que t'es pas vide. Tu sais, il y a une source, il y a un feu en dedans de toi, quelque chose qui... Tu sais?
En effet.
Parfois, comme j'écoute Radio-Canada, puis tout d'un coup, j'entends une toune. Puis avec Radio-Canada, tu peux très facilement retrouver la toune. Puis des fois, là, tu sais, je suis acharné, là. Tu sais, j'ai faim, j'ai vraiment faim, là. Faudrait que je mange, là. Puis là, faut que je trouve la toune. Puis je trouve la toune, puis je suis tellement heureuse. Oh yeah! Fait que ça, je me dis ça, cette passion-là, pour moi, c'est important que ça reste vivant.
Par le travail, tu sais, on parlait tout à l'heure des gens qui travaillent beaucoup. Il y a une forme de drogue, on se gèle au travail. Et quand on arrête, bien là, oups, là, on est obligé de faire face à l'inconnu parce que ça n'a jamais été exploré, l'intérieur. Alors, c'est très épeurant quand on ne connaît pas ça, puis qu'on s'assoit, puis que là, il y a des choses qui remontent, puis on n'a jamais, jamais touché à ça. Alors, c'est un peu compréhensif que ces gens-là, certaines de ces personnes-là, ont de la difficulté, ont une peur d'entrer en contact avec cet inconnu. C'est incroyable, hein?
Mais ça m'évoque justement une de mes tantes qui a pris sa retraite il y a quelques années. Elle avait travaillé toute sa vie pour le gouvernement, fonctionnaire, et puis là, elle se sentait pas bien, vraiment, elle allait pas bien. Mais c'est une femme extrêmement spirituelle, avec des dons aussi. Puis là, elle me disait, il y a un vide, là, je comprends pas c'est quoi le vide dans ma vie. Puis je dis, oui, mais je dis, ton vide, il a toujours été là, mais tu le remplissais de néant, tu remplissais de choses qu'il y avait qui n'avait pas de substance, et tu travaillais, tu recouvrais d'activité. Mais maintenant que tu as tout ton temps, tu es obligé de le regarder. Mais ce vide-là, c'est ce dont parle le Bouddha, c'est ça qui est l'absolu. On devrait être capable de sauter dans ce vide et être en paix.
Oui, mais pour l'atteindre, il y a apparemment de la souffrance qui est nécessaire pour atteindre. En tout cas, si on se fie à Arnaud Desjardins, il en parle un peu. Il y a un passage qui est souffrant pour atteindre ce...
Mais il n'est pas nécessaire, parce qu'Arnaud Desjardins était un yogi. Donc, le yogi parle beaucoup de se purifier. Il y a un travail à faire, une ascèse. Mais ce n'est pas nécessaire. Tu peux le faire si tu choisis, mais tu n'es pas obligé de souffrir. La souffrance, pour moi, c'est une étroitesse d'esprit. C'est comme le prendre un chemin croche. Tu peux prendre un chemin droit. Moi, j'ai pris le chemin droit. Je n'ai jamais souffert dans ma vie. Mm-hmm. J'ai mal parfois. La douleur, ça fait partie du monde aujourd'hui. Mais la souffrance, c'est un peu comme un détour qu'on prend. au lieu de faire un chemin droit. Mais on va faire une pause musicale avec Davy et la chanson qui s'appelle « Prendre le temps ». Toutes les chansons aujourd'hui s'appellent « Prendre le temps ». Et nous allons revenir avec ce thème « Le bonheur est dans les petites choses ».
Aujourd'hui on est libre et baby on ne fait rien. On reste en pyjama, on chill et on est bien. Ce matin je fais la cuisine, hier t'as brûlé le pain. T'inquiète babe, c'est rien. Dans mes bras, le ciel est bleu et l'odeur du café. Déjeuner dans le lit, pris dans nos oreillers. Profiter de la vie, c'est ce qu'on m'a conseillé. Baby, on débranche tout, on fait pause. On reste au lit, rien d'autre. On ne fera rien à part des choses. Juste un regard et tu sais. Tu peux monter sur mon dos. On ira vivre et voir le monde. Juste prendre le temps et savourer ces moments. On fera venir du resto cet après-midi. On s'écoute un film ou on commence une série. On s'ouvre une bouteille de vin avant midi. Allez, dis-moi oui. Dans mes bras, assoupi sur le canapé, à discuter, on rira. Après, on va s'aimer. Profiter de la vie, c'est ce qu'on m'a conseillé. Baby, on débranche tout. Simplement, on a toute la journée, en profiter à chaque instant, savoir tout oublier, comme si avec toi et moi, et c'est pas fait comme ça.
Propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Le bonheur est dans les petites choses ». Le temps est un bien extrêmement précieux. On devrait en être conscient. C'est pour ça qu'on nous le vole, le gouvernement nous le vole, la société fait en sorte qu'on en a moins parce que c'est quelque chose de très, très riche. Quelqu'un qui a du temps et réussit à ralentir, bien, il va vieillir plus lentement. Il va avoir plus de temps pour lui. Il va être beaucoup plus épanoui. Et quelqu'un qui est heureux a généralement moins le goût de travailler. Et là, il faut faire une différence entre le travail et la passion. Par exemple, quand j'écris des livres, c'est pas un travail. Quand je suis ici à la radio, ce n'est pas un travail. Même si je recevais de l'argent, ce ne serait pas un travail. Par exemple, si je suis obligé de faire des choses toute la journée, tu sais, j'aime ça, travailler pour mes clients, j'aime ça faire des sites web, mais parfois, j'aimerais mieux avoir la moitié de la journée juste à moi que toute la journée consacrée à mes clients. Et c'est un idéal. Moi, je pense à ça parce que, bon, je suis dans une étape de ma vie où c'est important parce que ça me fait rencontrer des gens importants dans ma vie, des gens qui m'aident à exister dans le monde. Mais je veux, rendu par exemple à ton âge, Michel, j'aimerais être rendu à un point où je n'ai pas besoin de travailler. Ça serait mon idéal. Par exemple, moi, ma technique, c'est les livres. J'écris des livres, j'en ai un par année. Je publie mes livres, je les mets dans mon entrepôt. Je viens de publier un nouveau livre, volontairement conscient, j'en ai fait imprimer ça. Je sais que j'en vendrai pas beaucoup présentement parce que je suis pas connu, mais ça ne m'empêche pas. J'ai encore un peu d'argent à investir. Je vais l'investir pour faire traduire mon livre en anglais. Donc, je pense toujours à des moyens pour moins travailler. Et comme tu parlais tantôt, Linda, un bon moyen, c'est d'augmenter ton salaire tranquillement et travailler moins. Tu sais, donc, gagner plus en faisant moins, ça pour moi, c'est de l'intelligence.
Ou faire quelque chose qui tient vraiment à cœur. Présentement, là, pour moi, j'ai l'impression d'entrer dans cette voie-là, de faire quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et puis, il y a des belles opportunités qui se présentent, donc qui augmentent mon énergie. Et c'est drôle parce que moi, l'idée de travailler longtemps, ça ne me répugne pas, ça m'excite. Mais faire quelque chose qui me plaît, par contre.
C'est comme... pour ça que je veux faire la différence entre le travail et la passion. Tu sais, un travail, si tu avais 1 million, puis tu continuerais à faire ce que tu fais là, ben c'est pas un travail.
Ben, c'est quelque chose qui t'anime de l'intérieur. Si j'avais 1 million, ben c'est parce que c'est drôle, l'approche de Byron Katie s'appelle « the work », le travail. Puis moi, ça vient de Gurdjieff, puis elle a dit « on appelle ça le travail parce que c'est du travail ». Et une fois que j'ai réussi à le faire, je me suis aperçu que ça m'a fait sortir d'un état de souffrance. Que je suis beaucoup plus heureuse. Tu sais, des fois, je vais aller au gym, là, je vais faire, je sais pas, moi, une heure de vélo ou du Stairmaster. Là. Puis t'as des choses qu'avant, là, j'avais pas l'énergie pour le faire. Puis là, je le fais. Là, puis là, je suis comme « yes! » Puis je transpire, puis je sors de là, puis je suis bien, tu sais. Fait que c'est bien relatif, mais c'est sûr, j'irai pas laver des planchers 8 heures de temps, puis dire « ah, quelle
joie! »
Non, tu sais, ou je sais pas, moi, j'ai déjà fait de la traduction, puis c'est relativement, ça dépend, là, tu sais. Faut qu'il y ait un aspect créatif. Quand il y a un aspect créatif, ben là, tout devient beaucoup plus signifiant. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est que notre vie, pour être heureux, pour que notre vie ait un sens. Pour qu'elle ait un sens, il faut sentir une fluidité, quelque chose qui coule à l'intérieur de toi, qui te nourrit. Un peu comme un enfant qui joue. Tu sais, il y a des enfants qui vont jouer au ballon, ils vont jouer au volleyball, tu sais, puis ils courent, là, et leur système cardiaque, là, ça travaille fort, tu sais.
Et justement, ouais, si tu parles d'enfants, Michel, je pense que pour une mère, c'est... T'apprécies maintenant ton temps? Je sais que ma soeur
a des enfants. Puis... Le plus jeune a 17 ans. Fait que ça fait pas longtemps là, que j'ai...
que t'as retrouvé du temps pour toi.
Oui, exactement. Et puis, c'est bien. C'est probablement pour ça aussi là, que je commence à penser à faire des choses que j'aime. Et puis, mais est-ce que c'est un luxe, dans le fond, de faire ce qu'on aime? Il y a eu des études là-dessus. Hein? Il y en a pas beaucoup de monde qui travaille dans ce qu'ils aiment vraiment.
La plupart des gens ne le font pas, non. C'est vrai. La plupart des gens ne travaillent pas dans ce qu'ils veulent. Puis c'est pas en regardant juste une poignée d'un segment de la société qu'on peut vraiment s'inspirer. Il y a tellement d'exemples à dire là-dessus, mais il y a deux choses, moi, que je retiens de ce qu'on parle en ce moment. De choisir un chemin avec cœur, comme dans les livres de Castaneda, dans le monde disait, choisir un chemin avec cœur. N'importe quel chemin, mais tant que c'est un chemin avec cœur. Parce qu'en fin de compte, c'est pas... Qu'est-ce qu'on sait, c'est que tous les chemins mènent nulle part. Donc, choisis-en donc un que tu vas avoir du fun, du plaisir, ou t'enligner avec une vibration positive, si t'as pour en choisir un. Ça mène nulle part. Ça m'amène aussi à penser à une autre chose, c'est la notion du temps. Et ce temps qui est illusoire, qui est réel dans le tridimensionnel, mais qui n'existe pas ailleurs. Ça, c'est notre illusion qu'on a. Donc, c'est important des fois de travailler puis de lever la couche de ce mystère qui s'appelle le temps chronologique et puis de voir c'est quoi l'autre essence du temps puis qu'est-ce que ça veut dire. Donc, revenir à une notion de l'éternité dans le maintenant. Ça, c'est une chose qui me revient à l'idée quand on parle de ces choses-là. Parce que sans ça, quand tantôt on a dit le terme, on a dit, tu sais, qu'il faut donner un sens à sa vie. Pour moi, le sens, quand on parle comme ça, pour moi, ce que cela veut dire, c'est donner une notion rationnelle, un sens, une logique, une morale, une idée qui répond à, qui s'enligne avec les valeurs de la personne qui le dit. Donc, c'est pas assez, ça. C'est morale, pensée, c'est des chiffres, c'est des mots, c'est des lettres mis dans un sac qui peut être combiné et qui a différentes valeurs dépendant de quelle planète, mais quel pays tu te situes. Donc, pour moi, le sens de la vie n'est pas aussi important que l'énergie de la vie, que de sentir son corps énergétique, que sentir son corps éthérique, cette chose que l'on est,
qui est vraiment là. Tu sais, ça, ça dépasse la pensée, ça dépasse les mots.
Quand je disais ça, sens, là, pour moi, c'était le ressenti. Sens, je ressens. Je sens que ma vie a un sens parce que je me sens vivante. Pour moi.
Pour moi, le sens a une importance dans le sens que, à l'âge de 10 ans, déjà, moi, j'avais trouvé ma passion. Mon bliss, c'était la bande dessinée. Et je suis tombé dedans, là, j'en ai fait. Ça m'a toujours guidé. T'sais. Mon père, il m'a vraiment amené vers l'administration des affaires. Il fallait que j'aille à l'université, avoir un bac. Mais ça me guidait. Je trouvais toujours le moyen de ramener ça à moi. OK, je vais aller étudier en administration parce que le marketing m'intéressait. Le marketing, OK, ça va m'aider à vendre mes bandes dessinées. Et puis aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je fais du marketing pour mes clients. J'ai vraiment une grande qualité dans ce domaine-là parce que, premièrement, je l'ai appliqué à moi. Je l'ai fait pour moi. J'ai fait mes propres sites web. Tout ce que je fais pour mes clients, bien, je l'ai fait pour moi en premier et je l'ai fait avec amour. Donc, maintenant, je peux le faire exactement de la même manière pour eux. Et le sens de ma vie, pour moi, c'est « OK, je suis un artiste. Je vais laisser personne me dire le contraire. » Et c'est arrivé très, très souvent. Et même si ça ne fonctionne pas, je veux dire, c'est pas une preuve. Je veux dire... Celui qui s'est coupé l'oreille, là, comment il s'appelle, non?
Van Gogh.
Van Gogh a vendu un tableau dans sa vie. Pourtant, c'est un génie de la peinture.
Mais il y avait un karma dur.
Souvent, les êtres humains, je trouve, sont des ignorants. Ils sont incapables de voir le génie ou la sagesse. Combien d'êtres ils réalisaient sont passés.
Je pense que Van Gogh, s'il y a quelqu'un qui était brillant, c'est bien lui. Il faut avoir vu ses tableaux en personne. Moi, j'en ai vu. C'est puissant.
Bon, mais tu sais, c'est pas le jugement des gens autour de lui, tu sais, qui était bon. On peut avoir raison contre un million. Et à travers l'histoire, combien de gens, Tesla qui a eu des idées totalement géniales. Mais aujourd'hui, on est pris dans la matière.
Oui, mais tu donnes un bon exemple. Tesla a révolutionné tout ce qu'on... Puis encore là, il est mort très malheureux dans un hôtel. Tu sais, donc, même les accomplissements, c'est ce qu'on essaye de dire dans un cours. Les accomplissements ne sont pas garants d'une fin heureuse nécessairement. Donc, ça doit être quelque chose d'autre.
Oui. Peut-être qu'il y a manqué de la sagesse à d'autres niveaux. Des fois, le génie, l'inspiration, c'est tellement fort. Moi, j'ai des périodes, je suis totalement inspiré. Tu veux dire, là, je sors d'une période où j'étais vraiment inspiré pour refaire le site du mouvement jovialiste. Et tu sais, j'arrête 3-4 jours, je suis dans un vide total. Et puis là, ça repart. Tu sais, là, c'est reparti. Là, j'essaie de comprendre la génération Z, les jeunes qui sont nés après 1995, donc qui sont complètement différents que la génération Y. Et ces gens-là, c'est drôle parce qu'ils sont, justement, ils ont 8 secondes d'attention. Ils sont pas capables de se concentrer. Et c'est peut-être un problème. On arrive dans un moment où les jeunes, ils ont tellement dans la rapidité qu'est-ce qu'ils vont être capables de voir les petits détails? Je leur souhaite. On va le voir bientôt.
C'est aussi une question d'éducation. Si tu es, en tout cas moi, dans l'éducation que j'ai donnée à mes fils, il y avait beaucoup d'intériorité. On avait des périodes où on faisait des méditations avec les enfants, tout ça. Pas des grosses méditations, là, mais tu sais, avec de la musique où on se calmait, où on essayait de faire des petits moments de détente plutôt. Tu sais. Ça dépend des valeurs qu'on a données à nos enfants. Tu sais, l'extérieur, oui, c'est une chose, mais ce qu'on a donné, la base est là, toujours là.
Oui, c'est sûr. Mais il y a comme un maximum que tu peux faire même en tant que parent, parce que tu es obligé d'envoyer ton enfant à l'école, qui est une usine à crétins. Donc déjà... Tu es obligé d'envoyer ton enfant dans un système qui va le rendre un robot, qui est dessiné pour ça, pour qu'on devienne des travailleurs, des esclaves. Et donc, le parent n'a pas toujours le choix. Moi, on doit finir l'émission rapidement, mais j'ai rencontré déjà des parents qui étaient consternés parce que leur enfant était obligé de prendre du Ritalin. Et ça faisait 3 écoles qu'ils le mettaient à la porte. Et si l'enfant ne prenait pas du Ritalin, il était à la porte. Et là, le parent était complètement chamboulé. Et le système est fait aujourd'hui que tu dois être d'une certaine manière. Si tu ne l'es pas, tu ne fites pas. Mais bon, ça sera sûrement le sujet d'une autre émission. Merci d'avoir été à l'écoute. Et bonne semaine à tous.
Bonne semaine.
On va vous laisser avec une chanson de Benjamin qui s'appelle « prendre le temps. Et je vous souhaite de prendre le temps cette semaine et surtout de prendre le temps de visiter notre site internet à proposurlebonheur.com.
Mais c'est pas grave, puisque c'est toi. Et je crie au vent, mais personne ne m'entend, est-ce grave pour autant? Toujours prendre le temps d'imaginer ce que chercher les évidences, on en oublie souvent le sens, à trop vouloir trouver des différences, au lieu de retenter sa chance, on attend encore, on s'en sortira.